Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans COP Paris, votre rendez-vous tous les lundis soirs avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. Un plateau qui a le sourire après la démonstration hier soir au Vélodrome du Paris Saint-Germain. Alexandre Marois et Raphaël Chader, bonsoir messieurs.
Bonsoir à tous les gars, ravi d'être là.
Impatient de débriefer, j'imagine, ce classique qui nous a plutôt enchanté hier soir.
Une mi-temps, 20 minutes.
Une mi-temps, après, ouais, ça s'est un petit peu ralenti. Classique qui a donc tourné en faveur du PSG. Match à sens unique qui a peut-être basculé sur le carton rouge d'Amin Harit. C'est la question que l'on se posera, que l'on vous a posée sur le hashtag COP Paris. Paris qui s'impose 3-0 sans avant-centre de Métier. On en a l'habitude. Ousmane Dembélé était hier soir le faux numéro 9. Vrai dossier ou faux débat pour Luis Enrique, on en parle dans la deuxième partie. Et puis les top flops de ce classique avec le très grand retour en forme de Warren Zaïre-Emery et le match taille patron de Joao Neves. Tout ça, ça sera dans quelques instants avec Daniel Louboya, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui sera avec nous d'ici quelques secondes. Et puis comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens Omnisport, COP Paris, débrief du classico. C'est parti. On ne s'en lasse pas de ce genre d'image. Luis Enrique fumigène à la main pour célébrer la victoire parisienne hier au Vélodrome. Il était aux alentours de 3h du matin du côté de Roissy avec près de 300 supporters présents. Une ambiance de retour de classique qu'a certainement connu notre invité du soir, monsieur Daniel Louboya. Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Un grand merci d'être avec nous ce soir dans COP Paris. On va rappeler ton parcours, notamment au PSG, où tu as passé un an et demi au poste d'attaquant, 68 matchs, 8 buts avec le PSG, la Coupe de France en 2004, carrière que tu as débutée à Sochaux, qui t'a emmené en Allemagne. Également, cela fait une petite dizaine d'années, Daniel, que tu as raccroché les crampons. Raconte-nous, qu'est-ce que tu deviens ?
Bah, je suis conseiller des joueurs, je les conseille pour leur choix, que ce soit sportif ou autre, parce que comme j'ai joué pendant pas mal d'années au football professionnel, je peux les conseiller à choisir les choses qui sont importantes pour eux, même après la carrière. Donc voilà, je suis conseiller des joueurs, plein de choses.
On va revenir sur ton passage au PSG. Daniel, tu as disputé 5 matchs face à l'OM, 4 victoires et un nul. Joli bilan. Et Raphaël Chader, qui est à mes côtés, une question pour toi.
Déjà, enchanté Daniel, merci encore pour les émotions, pour ton passage au Paris Saint-Germain, notamment ta première titularisation contre l'OM en Coupe de France en janvier 2004. Toi qui as bien connu ce contexte, quel est ton meilleur souvenir de ce genre de rencontre qu'on attendait tous en début de saison ?
Bah, c'était surtout mon deuxième match, premier en tant que titulaire, je pense. Mon premier match, c'était contre Metz, où je suis rentré une vingtaine de minutes. Et puis là, c'était le match en coupe titulaire. Donc, on a fait un super match, toute l'équipe. Moi, je me trouvais bien aussi. Et puis, voilà, il y avait Juan Pablo Sorin, je pense, qui marque le 12e but. Ouais. Je pensais ça de la tête.
Ouais.
Donc, franchement, je ne vais jamais oublier dans le vestiaire après quelle fête on a fait. Et puis, on a chanté vraiment dans le bus après le match. C'est des moments à ne pas oublier. Hein. Tu ne peux pas oublier des moments comme ça dans ta carrière. Donc maintenant, je vois que quand Paris gagne, ils sont contents. Mais à l'époque, c'était encore quelque chose de différent parce que on gagnait pas souvent. Bon, je dis pas on gagnait pas souvent, mais on a fait avec notre équipe là. Quand j'étais à Paris, on a fait une série de 6 ou 7 victoires d'affilée.
Je crois
aussi.
Que c'est même 8. Je crois que c'est même 8 victoires, le grand 8 à l'époque. 8. Donc 4 pour toi, Daniel. Alexandre Marois, qui est à mes côtés, a également une question pour toi.
Ouais, bonsoir Daniel, ravi de t'entendre. Moi, j'avais une petite question durant ton année et demie au PSG, savoir un petit peu quel joueur t'avait le plus impressionné à l'entraînement, par exemple, voilà, le joueur du PSG que t'as le plus impressionné pendant ton passage.
Moi, il y avait des grands joueurs. Il y avait Pauleta, bien sûr, c'était l'attaquant qui était fort. Après, il y avait Juan Pablo Sorin. Après, on avait les joueurs en défense. Il y avait Frédéric Déhu et José-Pierre Fonfon, qui étaient aussi des bons joueurs. Il y avait une bonne équipe, Gabriel Anze aussi. Donc, Après, je vais citer Branko Bošković, qui est mon ami aussi. On a joué ensemble. Donc, ça, c'était des joueurs qui m'ont...
Un grand monsieur, Daniel De Classico. On se souvient de son doublé, je crois, en Coupe de la Ligue au Stade Vélodrome. On va revenir avec toi, Daniel, sur le classique d'hier soir. Mais avant d'évoquer la victoire, la démonstration parisienne, difficile de ne pas revenir sur cette 20e minute, cette faute d'Amin Harit. On va la revoir sur Marquinhos. Le carton rouge brandi quelques instants plus tard par monsieur Le Texier pour le milieu de terrain marseillais. Alexandre Raphaël, votre avis sur ce carton rouge, justifié ou non ?
Pour moi, non. Pour moi, c'est carton jaune. En fait, c'est un très bon arbitre, hein, monsieur Le Texier. Je ne remets pas ça en cause. Il a très bien expliqué les choses après le match, donc j'entends ses arguments. Mais pour moi, l'intégrité physique de Marquinhos, elle n'est pas... Ben voilà, je veux dire, effectivement, c'est un peu spectaculaire, mais à aucun moment, Harit veut lui faire mal. Et bon, voilà, ça fait peut-être... effectivement, c'est un choc sur le ventre, sur le plexus, c'est pas agréable. Mais franchement, mettre carton rouge pour ça, pour moi, c'est très sévère. Et en vrai, même si Paris était très au-dessus...
Il y a une belle marque, Alexis Orvigi peut nous renvoyer la photo des stigmates sur la poitrine de Marquinhos. Raphaël, ton avis ?
Bah, moi, je rejoins Alexandre, parce que déjà, dans un premier temps, quand on voit les images, on voit très bien que Harit regarde le ballon, donc il souhaite contrôler le ballon, donc aucune intentionnalité. Monsieur Le Texier a bien pris le temps sur les antennes de DAZN pour expliquer pourquoi, justement, il avait pris cette décision. Pour le coup, il s'est bien exprimé. Et d'ailleurs, tous les arbitres français devraient faire ça lorsqu'il y a une décision un peu litigieuse en fin de match. Je trouve que c'était une bonne chose. Mais Benoît Chéroux a bien appuyé sur le fait que, bah, on sent que Harit n'a aucune intention de faire mal. Et moi, je trouve ça dommage, avec la VAR, que les arbitres fassent moins preuve de psychologie, en fait, dans ce genre de décision. Surtout que c'était la 20e minute, la première grosse faute, entre guillemets, du match. C'est dommage.
Daniel, ton ressenti, toi, sur le carton rouge d'Amin Harit hier soir, et est-ce qu'il fait basculer le match, selon toi ?
Je vais vous dire sincèrement, je vais être sincère avec vous. Ma fille, elle avait un tournoi de tennis ce matin. Donc, j'ai regardé le match pas à 100%. Donc, je peux pas.
Ouais, mais t'as vu le carton rouge quand même. Tout le monde ne parle que de ça depuis hier soir.
Voilà, mais je ne peux pas me prononcer à 100% sur les détails parce que ma fille, comme elle avait un tournoi de tennis, j'étais obligé de rester avec elle. Je ne pouvais pas vraiment regarder le match à 100%. Donc, par rapport au match, c'est compliqué que je donne un avis sur des actions.
Ouais, bon, on va écouter Warren Zaïre-Emery justement sur ce carton rouge et plus précisément sur son incidence dans le classique. A-t-il fait basculer cet OM PSG ?
Bon, on a vu que même à 11, on était bien, on était concentré, on les faisait courir, on a su créer des occasions. Donc je ne pense pas que ça aurait changé quelque chose.
On va revoir les trois buts parisiens au Stade Vélodrome. Si l'on écoute Warren Zaïre-Emery, Raphaël, le carton rouge, il change pas grand-chose finalement.
C'est un peu compliqué parce que il faut quand même reconnaître que dans les 15-20 premières minutes, Paris asphyxie clairement Marseille. Ils n'arrivent pas à ressortir le ballon de leurs 40 mètres. On voit des enchaînements dans les 25 mètres. On sent les Parisiens avec les automatismes dès le début. Et puis, ils ouvrent le score bien avant le carton rouge. Et en plus, on était quand même assez sceptiques. Hein. Il y avait beaucoup d'observateurs qui pensaient que ça allait être compliqué pour le PSG parce que Marseille sortait d'un 5-0 à Montpellier, le match nul contre le PSV.
Bon, après, qui met pas des volets à Montpellier en ce moment ? Je pense que,
Paris, 6-0 en début de saison.
Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'était un peu enflammé sur le niveau de Marseille.
Je suis quand même un petit peu frustré de ce classique. Seulement par la décision et par la seconde période qui n'a pas été poussée ou poussive.
Moi, je trouve vraiment que le rouge a une vraie incidence. Même si Paris était au-dessus, on sait jamais ce qu'un match de Penner. Je pense même que le deuxième but, je ne sais même pas s'il y a le deuxième but, s'il y a pas de carton rouge, parce que les Marseillais sont la tête ailleurs. Le CSC de Balerdi, il est lunaire en vrai. Donc
pour moi, c'est le deuxième but, le CSC est complètement lunaire. Il n'y a aucun pressing sur porteur de balle.
S'il n'y a pas le carton, c'est un autre match en fait. Donc pour moi, effectivement, Paris était très au-dessus, mais on a vu plein des matchs où une équipe est très au-dessus. Paris était très au-dessus du PSV aussi. Et on ne sait pas ce qui peut arriver dans un match. Donc évidemment que c'est un poids énorme ce carton rouge.
Daniel Louboya, c'est jamais anodin de gagner quand même au stade Vélodrome. Tu en sais quelque chose. C'est le genre de victoire qui fédère et le genre de match référence peut-être pour ce PSG-là ?
Oui, bien sûr, mais après, il faut se dire que le Paris d'aujourd'hui, ce n'est pas le Paris de l'époque, donc je pense que Paris d'aujourd'hui, ça doit être normal de gagner au Vélodrome avec tous les investissements où le club il a fait. Donc moi, je pense que c'est à peu près normal. Maintenant, je pense que ce qu'il faut regarder par rapport à Paris Saint-Germain, c'est comment Paris il évolue en Ligue des Champions. Mmh. Et c'est ça, je pense, que le plus important. Après, bien sûr, il ne faut pas oublier le championnat. Ce n'est pas facile. Il y a les équipes comme Marseille se sont bien renforcées. C'est une bonne équipe. C'est jamais facile de gagner là-bas. Mais je pense que la priorité, le vrai visage de Paris, je pense qu'il faut le voir en Ligue des Champions. C'est ça le plus important, je pense.
Ouais, c'est vrai. Le classement de la Ligue 1, juste un petit coup d'œil pour s'apercevoir que le PSG compte désormais 6 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. 3 points d'avance également sur Monaco qui a perdu face à Nice. Le PSG est désormais la seule équipe invaincue. Est-ce que c'est déjà un petit tournant, un petit virage dans cette saison ?
Forcément, parce qu'on oublie le contexte classique. Là, on parlait du second qui affrontait le premier. Donc forcément, c'est un match à 6 points, d'autant plus à l'extérieur. Même si le PSG n'avait pas perdu en Ligue 1 depuis 2011 au Vélodrome, ça reste un match à cocher sur le calendrier et surtout sportivement. Là, maintenant, le PSG s'est rassuré. Surtout que là, il n'y aura pas de Magic des Champions cette semaine. Donc ça leur permet de se concentrer encore plus sur le match d'après et prendre peut-être une avance encore plus conséquente par la suite.
Ça confirme surtout que le principal adversaire du PSG, c'est Monaco.
Ouais, c'est Monaco.
Ça va être un match à deux pour le titre. Et je pense que voilà, le match hier soir, c'est que la confirmation. Ça, mais je pense que Marseille a été un petit peu surévalué.
C'est ça, c'est que j'en déduis que tu considères que Marseille, le Marseille de Roberto Desailly.
Ouais, par exemple, Greenwood, je trouve qu'il marque un peu le pas. Il a été un peu en feu en août et début septembre. Voilà, il a fait un match catastrophique. Ouais. Bon, il y a des enseignements à tirer de ce match aussi côté Marseille, je pense.
Petite coupure pub, les amis. On va se retrouver dans quelques instants pour évoquer un gros dossier. La valse continue au poste de numéro 9 au PSG. On en parle dans quelques secondes. À tout de suite. De retour dans Cop Paris avec mes invités du soir, Alexandre Marois, Raphaël Chader et notre invité spécial ce soir pour débriefer le classique, monsieur Daniel Louboya. Daniel, ton regard d'ancien attaquant du PSG va nous servir pour évoquer ce fameux dossier du numéro 9. Alors hier soir, c'était Ousmane Dembélé qui a démarré dans l'axe. C'est un positionnement un petit peu inhabituel pour lui et on a l'impression que ça bricole quand même beaucoup dans ce registre-là, ce poste de numéro 9 au PSG.
Ouais, je pense qu'à Paris, comme c'est une grande équipe qui veut gagner la Ligue des Champions, je pense qu'il faut trouver un numéro 9 qui est capable d'être un 9 qui marque des buts et qui arrive à éliminer, à faire la différence, seulement pas être un numéro 9 pour essayer de mettre le but à 10 mètres, je veux dire, de la cage, comme on dit en français. Donc je trouve que c'est dommage de ne pas avoir un grand numéro 9 à Paris et c'est ça qui est dommage parce que Paris, il y a un grand joueur, Dembélé qui joue à droite et à gauche, Barcola, et je pense qu'avec un numéro 9, ils seraient tous les deux beaucoup meilleurs. Ouais. Maintenant, essayer de chercher le système au cours de la saison comme ça, ce n'est pas évident.
On va en reparler du numéro 9 peut-être avec Gonçalo Ramos. Juste messieurs, un petit mot sur la prestation d'Ousmane Dembélé, faux numéro 9, presque meneur de jeu. On avait déjà vu ça la saison dernière, c'est quelque chose qui peut être pérenne.
Alors faux buteur déjà pour commencer, parce que devant le but c'est pas ça du tout.
Pas buteur,
il a fait plutôt un bon match dans le jeu hier soir, mais devant le but, c'est une catastrophe. Enfin, c'est dur de se dire qu'on va jouer avec Dembélé numéro 9, même si c'est vrai que quand il est dans l'axe, je le trouve plutôt meilleur, mais on manque d'un buteur, clairement.
Enfin, il l'avait montré déjà à Marseille l'an dernier, quand il avait joué dans l'axe. Il avait eu ce rôle un petit peu de...
La Real Sociedad.
Ouais, et aussi également... faux numéro 10, faux numéro 9, plus percutant et moins prévisible, on va dire, parce qu'il est ambidextre, donc il peut jouer du gauche, du droit, donc il peut distribuer à gauche, à droite. Maintenant, ouais, c'est vrai que là, dans l'axe, c'est compliqué. On en avait parlé en off, je pense qu'un joueur comme Asensio peut avoir ce rôle de faux neuf.
On va voir depuis le début de saison, depuis la blessure de Gonçalo Ramos, le nombre de joueurs qui a évolué à ce poste-là. C'est le cinquième, Ousmane Dembélé, après Asensio, tu le disais, Kanginli, Kolo Muani ou encore Désiré Doué. Daniel, si je t'écoute et si je résume un petit peu les propos que tu as tenus il y a quelques instants, c'est pas une philosophie que tu valides forcément, celle de Luis Enrique. Voilà, ce petit bricolage au poste d'avant-centre. Le PSG a pour toi besoin d'un vrai numéro 9, notamment en Ligue des Champions.
Oui, pour essayer de viser un peu plus haut, je pense qu'il faut quand même avoir un numéro 9 qui est capable de faire la différence et de garder le ballon et d'être un numéro 9 complet. Maintenant, il faut s'adapter, il faut chercher les solutions, la solution qui elle marche, parce que le championnat il est déjà lancé, tout est lancé, donc on est obligé de trouver les solutions. Ouais. Mais c'est dommage, un club comme Paris, de ne pas avoir un numéro 9 qui est capable de... Je donne un exemple, Marcus Thuram qui joue à l'Inter, un attaquant comme ça qui est capable de marquer, mais garder le ballon aussi, et de faire la différence. Je donne un avis sur un profil comme ça. Donc je pense que les joueurs de côté, ils auraient été aussi beaucoup meilleurs et beaucoup plus efficaces avec un attaquant comme ça.
Ouais. On va voir aussi, messieurs, le contraste de rendement offensif. Ligue 1, Ligue des Champions, 9 matchs, 28 buts en Ligue 1, plus de 3 buts en moyenne par match, et 2 petits buts seulement en 3 matchs de Ligue des Champions. Ce contraste, c'est uniquement lié à l'absence du numéro 9 ou ça va plus loin?
Deux petits buts, dont un offert par le gardien de Gironde aussi.
Oui, hein, un CSC et un but d'Hakimi.
Je pense qu'on n'a pas besoin d'être un grand expert du football pour comprendre que l'intensité, le niveau de Champions League n'a pas les mêmes standards que la Ligue 1. 3 buts de moyenne dans un championnat qui est soi-disant plus fermé, c'est déjà significatif. Quand on voit les adversaires que le PSG affronte en début de saison et surtout les blocs que le Paris Saint-Germain rencontre, notamment contre Gironde et contre le PSV. Après, Arsenal, c'est clairement un adversaire qui était supérieur et surtout à l'extérieur. Donc moi, c'est la lecture que je fais, c'est que le PSG, on se rend compte davantage avec cette statistique, le clivage qu'il y a entre la Ligue 1 et la Champions League.
Ça suffit en Ligue 1, pas en Ligue des Champions, Alexandre, cette ligne offensive?
Non, mais on a devant les buts, c'est désespérant. Moi, j'étais au Parc contre le PSV. On a un nombre d'occases incroyable, en fait. C'est pas normal de marquer qu'un seul but sur un match comme ça, en fait. Donc, tant qu'on aura ce niveau d'efficacité, on pourra prétendre à rien, de toute façon.
La solution, peut-être, on en parlait, viendra de Gonçalo Ramos, de retour de blessure. Alors, on ne sait pas quand. On va écouter, Luis Enrique, on lui a posé la question sur le retour de blessure, la date du retour de blessure de Gonçalo Ramos, et ça l'a un petit peu agacé. Écoutez.
Vuelve el 25, eso ya seguro.
Il reviendra le 25, ça j'en suis sûr, mais je ne sais pas de quel mois. Voilà, comme ça vous êtes tous tranquilles. La solution à tous les maux du monde, c'est Gonçalo Ramos. Mais non, la solution ne peut pas venir d'un seul joueur, ni même d'un joueur que nous pourrions recruter. La solution, c'est de faire grandir l'équipe et le club. Pourquoi pas en effet profiter du mercato pour améliorer notre effectif? Mais la solution est globale et viendra du collectif.
Et la solution a toujours un componente global.
Daniel Louboyer est avec nous dans Cop Paris. Je vais me servir de ton expérience, Daniel, toi qui as évolué avec un grand buteur portugais au Paris Saint-Germain, Pedro Miguel Paoleta. Qu'est-ce que tu penses de Gonçalo Ramos? Est-ce que ça peut être le grand numéro 9 du PSG?
Je ne dis pas que ce n'est pas un joueur qui peut faire la différence et faire les choses, mais je pense que si Paris veut gagner la Ligue des Champions, je pense que devrait avoir encore un attaquant qui est capable de faire plus avec le ballon. Je ne dis pas que le Gonzalo il peut pas marquer des buts, mais ce que je veux dire, en tant que joueur individuel, je ne sais pas s'il est capable d'éliminer les joueurs et faire la différence comme d'autres attaquants de grande qualité.
Raphaël.
Bon, en fait, ce que je voulais aussi souligner, c'est cette manie de mettre un faux neuf. Alors, je suis d'accord que Colomboigny ne rentre pas dans ses plans. Mais à un moment donné, si c'est pour mettre des joueurs comme Désiré Doué en mode faux neuf ou Ousmane Dembélé,
ça... On a vu la liste, on en est à 6 depuis.
Non mais à un moment donné, pour moi, l'effet Guardiola, Luis Enrique mettre des faux neufs, c'était marrant au bout d'un moment. Mais pour moi, quand t'as des ailiers comme ça, comme Barcola Dembélé, rien de mieux qu'un attaquant de fixation qui permet justement à la fois de faire briller tes ailiers et en même temps de marquer et de finir les actions. Donc moi, je comprends pas. Quand t'as 170 millions d'euros, il y en a un qui a l'infirmerie et l'autre sur le banc, tu fais pas jouer alors que t'as pas de neuf. C'est compliqué. Il faut vraiment qu'il trouve une solution et que Ramos revienne vite.
Alexandre, tu tables sur le retour de Gonçalo Ramos ou faut aller
chercher autre chose? Mais on écoute Enrique, il va continuer avec cette logique-là. Mais pour moi, si on suit la logique d'Enrique, le joueur qui correspond le plus à ce qu'il a envie de faire, c'est Asensio. Après, on sait que c'est un joueur qui est très fragile physiquement, qui ne peut pas enchaîner les titularisations. Mais pour moi, lui, il a un profil. Certes, ce n'est pas un vrai avant-centre, mais il l'a déjà fait aussi au Real. Il a ce profil de faux neuf intéressant, qui s'intègre bien dans le jeu, qui permet de libérer des espaces pour les ailiers. Donc moi, Asensio, ça me va bien. Mais après, oui, voir Kang In-Lee ou voir Doué en neuf, ça ne me plaît pas.
Comme tu dis, il n'a aucun, on va dire, remplaçant poste pour poste avec ce même profil. Et en plus, il est fragile. Donc imagine Ispet, ce qui arrive quand même assez souvent depuis quelques années.
Mais Ramos, c'est bien sûr qu'on l'attend. Mais est-ce qu'il le mettra? L'an dernier, il plantait aussi beaucoup de buts et Enrique ne le faisait pas tant jouer que ça. Donc bon.
Daniel, en t'écoutant, on devine un petit peu que pour toi, il faudrait peut-être recruter au mercato d'hiver à ce poste-là. Toi qui es agent, conseiller de joueur, t'as un nom? T'as pas un petit joueur à nous conseiller?
Non, mais il y a des joueurs intéressants. Après, je n'ai pas regardé les joueurs pour conseiller Paris quel joueur prendre. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai donné un profil comme ça, comme Marcus Thuram, qui est capable d'éliminer et puis marquer des buts. Donc, après, je pense qu'il ne faut pas se tromper en essayant de jouer son vrai attaquant. Parce qu'à l'époque, Barcelone, ils arrivaient à jouer comme ça. Mais ouais. même Barcelone, avec Xavi, Iniesta, avec tous les grands joueurs, Messi, même eux, ils n'arrivaient pas à des fois faire la différence avec cette grande équipe. quand Eto'o il était parti, je me rappelle qu'il n'y avait pas Ibrahimovic. L'équipe elle jouait des fois sans l'attaquant. Et puis on voyait même que Barcelone, à l'époque, elle n'arrivait pas. Alors que je pense Paris, là, le club, je veux dire, l'équipe, elle n'a pas la qualité de Barcelone à l'époque. Donc tu as besoin d'un vrai attaquant. Ouais. Maintenant, je laisse ça à faire aux gens qui sont au club là-bas. Ils sont capables de trouver, je pense.
Juste un petit mot, messieurs en plateau, sur un homme. Alors tu as évoqué son nom, mais dont on ne parle presque plus. Et pourquoi? C'est Randal Kolo Muani. 3-0 hier, il ne rentre même pas en jeu. Une dizaine de minutes, je crois, contre le PSV, Alexandre. C'est fini, c'est terminé pour Randal Kolo Muani.
Ce qui est drôle, on en avait parlé à une émission. Il a démarré les 6 matchs de poule de la Ligue des Champions de la saison dernière. Là, il n'y a plus Mbappé. Ramos est blessé et il ne joue plus. Et à un moment donné, il envoie des signaux. Ouais. Pour moi, Kolo Muani ne rentre plus dans les plans du coach. Mais à un moment donné, il faut trouver une solution parce que là
ça rappelle un peu Ugarte au milieu l'an dernier, pareil, qui avait été écarté. Oui, on ne connaît pas trop pourquoi. Et en fait, moi, j'aurais bien aimé prendre Osimhen par exemple cet été. Et je me suis dit, bon, clairement, si on ne prend pas, c'est peut-être effectivement que Kolo Muani va avoir sa chance. Et en fait, pas du tout. Je pense que
c'est la question qu'on s'est posée.
Kolo Muani,
il
le voit même pas comme un neuf potentiel. Lui, il le voit comme un joueur de côté. Et voilà, clairement, il lui fait comprendre que c'est un troisième choix, quoi.
Daniel, dernière question justement sur Randal Kolo Muani, un joueur qui est en difficulté, on vient de l'évoquer au Paris Saint-Germain. C'est fini pour lui au Paris Saint-Germain ou tu penses qu'il peut encore s'exprimer, avoir sa chance avec Luis Enrique?
Dans le football, on ne sait jamais. Il peut avoir un déclic où le coach il va se rendre compte sur un match, il peut lui faire confiance. Mais bon, s'il n'a pas vu jusqu'à maintenant ou s'il n'aime pas son profil jusqu'à maintenant, c'est... Ça me paraît un peu difficile qu'il lui donne la chance parce que s'il y a des joueurs blessés ou il y a des opportunités pour jouer et qu'il ne joue pas, donc je ne sais pas comment ça va évoluer, mais ça ne tourne pas bien pour lui parce que c'est dommage de ne pas lui donner plus d'opportunités, surtout qu'il peut dépanner dans l'axe, il peut aider, mais après c'est comme ça, c'est le football. Après, l'entraîneur, il a ses choix, mais bon... On verra par la suite comment ça va se passer.
Un immense merci Daniel Loubria d'avoir participé à Cop Paris. La connexion est en train de nous lâcher. Bon voyage et à très bientôt dans Cop Paris. Merci beaucoup Daniel.
À bientôt.
Merci beaucoup.
On a des avis un petit peu différents finalement sur le numéro 9. On écoutait Daniel Loubria, pour lui il faut un vrai numéro 9. Asensio, recrutement. Moi, c'est quoi l'issue de ce dossier? Même si bien évidemment Luis Enrique a le dernier mot.
Encore une fois, ça montre que le club n'arrive pas à travailler correctement l'été quand il se réveille en fin de mercato.
Oui, mais c'est la volonté du coach.
Mais oui, c'est ça, je pense. C'est vraiment
de numéro 9. Lui, on décide de laisser les mains libres.
Mais je pense qu'il va même pas. On va pas cet hiver au rôle d'avance.
Il est sur une pente glissante, tout simplement. Moi, tu me dis Asensio, je suis assez d'accord. Mais c'est trop léger, c'est trop incertain. Et on le voit que même avec Asensio en pleine possession de ses moyens, c'est pas non plus.
Compris pour le retour de Gonçalo Ramos, le 25, mais si possible novembre, pas janvier.
Bah ouais. Ça va pas être décembre du coup.
Et encore, moi je pense qu'il va continuer dans sa logique, hein, qu'il va pas changer comme ça. Donc il va continuer avec. Voilà, on aura souvent un faux neuf, et puis de temps en temps, il y aura Ramos selon le profil de l'adversaire, il nous surprendra. Et voilà, mais je pense pas qu'on va recruter de neuf cet hiver.
Bon, dossier à suivre, il y aura peut-être d'autres développements. On a vu parfois Hakimi également au poste de numéro 9. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de Cop Paris, les top flops de cette OM PSG. Et puis on parlera un petit peu du Ballon d'Or également. À tout de suite. De retour, messieurs, dans Cop Paris, la dernière partie. Mes deux chroniqueurs sont toujours là, Alexandre Marois, Raphaël Chader. On va continuer de débriefer ce classique avec les top flops de cette rencontre côté parisien. Alors le top, c'est le choix de Cop Paris ce soir, la confirmation d'un retour en forme, celui de Warren Zaïre-Emery. Le flop, on l'expliquera, c'est un petit peu sévère, mais parce qu'on en attend un petit peu plus, c'est Désiré Doué, auteur d'une entrée assez timide. On démarre avec Zaïre-Emery, moins en vue depuis le début de saison, Alexandre, mais qui hier soir a sorti un grand match dans la lignée, j'ai envie de dire, de ces deux, trois dernières sorties.
Non, mais il est beaucoup mieux. Je pense que si on l'a mis peut-être trop vite, on a été à donner le détail de ses notes au bac. Enfin, ça va. Il a eu un petit passage à vide. En plus, il a eu sa blessure quand il avait été appelé en équipe de France. Il a eu un peu de mal à se remettre. Mais là, ouais, depuis un mois, il est beaucoup mieux. Et hier, il fait un super match. Sur le premier but, c'est lui qui fait la différence au début. Il fait un super changement d'aile. Il était très présent. Et c'est le seul de ce profil-là au milieu.
Projection, ouais.
Voilà, qui y va un peu plus.
T'as la sensation justement qu'on retrouve le Warren Zaïre-Emery alors de la première partie de la saison dernière avec ce volume de jeu, ce pressing, ces projections.
Il avait juste besoin de temps et peut-être que le fait qu'on parle peut-être un peu moins de lui a fait qu'il a pu revenir en force. Ce match hier a vraiment été pour lui hein, un match où les Marseillais perdaient beaucoup de ballons dans le milieu de terrain, quelqu'un qui allait dans l'impact. Moi, je repensais sa performance m'a fait penser à son match au Parc contre le Milan AC l'année dernière, ouais. Un joueur qui remontait la balle,
je crois, hein.
Exactement, qui remonte des ballons. ballon qui va à la fois être à la récupération, à la transmission. C'est exactement ce qu'on attendait de lui. Et aussi, je tiens à noter aussi João Neves, parce qu'on parle de,
ouais,
de Warren.
Alors, attends, on va y venir, ouais. João Neves. Juste pour terminer sur Warren Zaïre-Emery, et tu le disais, est-ce que c'est pas un petit peu normal, à 18 ans, quand tout va si vite, première sélection, titulaire au Paris Saint-Germain, est-ce qu'on n'en attend pas trop, tout
oui, bah, sur la régularité, on a fait limite un titulaire indiscutable.
Et il l'est, presque.
Bah, oui, mais en fait, c'est encore un gamin, il est tout récent, etc. Donc, il faut lui laisser un peu le temps, et je trouve que là, il revient très très bien. Donc, et on voit qu'il a du potentiel. Ce sera peut-être jamais le meilleur milieu de terrain du monde, mais et c'est un super joueur, c'est sûr.
Il a, bah, surtout qu'il a un abattage. Enfin, en face à lui, il a quand même des joueurs avec des profils différents. Donc, il a vraiment sa carte à jouer. Et il a quand même l'amour du public parisien. Il a quand même la formation. Enfin, il a quand même beaucoup de choses autour de lui. Et
c'est un garçon qui prend le méga devant le virage Auteuil depuis quasiment deux ans. Enfin, voilà, tout a été très vite. Est-ce qu'elles étaient justifiées, les critiques à l'encontre de Warren Zaïre-Emery? Parce que Luis Enrique l'a un petit peu défendu ces derniers temps. Bon, on sentait le discours de l'entraîneur en disant: moi, je le trouve presque meilleur que la saison dernière. Il gagne en expérience.
Non, mais je pense effectivement qu'on avait trop d'attentes. Et donc, forcément, quand on a des attentes plus élevées, bah, dès qu'il y a des performances un peu comme ci, comme ça.
Puis il était aussi un peu sur régime au bout d'un moment. C'est-à-dire, il enchaînait.
Il a trop enchaîné aussi.
Il a trop enchaîné. On l'a beaucoup utilisé. Et je pense
qu'il a changé de poste aussi. On l'a fait jouer arrière-droit, arrière-gauche parfois.
Le retour de blessure a quand même été relativement précipité la saison dernière.
On a enchaîné les matchs. Hein, avec la coupe.
On l'a retapé pour qu'il revienne à Dortmund. Et pour cause, c'est lui qui avait inscrit le but de la qualification. Tu en parlais. João Neves, l'autre grand bonhomme, un autre milieu de terrain très jeune, 20 ans, lui aussi très bon hier soir, auteur de son premier but avec le PSG, il a bien choisi le moment. Il était un petit ton en dessous pour l'instant sur les gros matchs en Ligue des Champions, là, match de patron.
En tout cas, il m'impressionne, hein, parce que moi, quand il a signé, j'avoue, je m'attendais à pas grand-chose. Je l'ai vu une fois jouer à la Luz, au stade, pour un match de Benfica. Avant qu'il signe au PSG, je l'avais jamais vu. Sur les premiers matchs, top, hein, contre Le Havre, contre Montpellier, c'était masterclass. Il a eu des petits coups de mou sur des gros matchs, mais à vrai dire, comme la majorité de l'effectif, hein, notamment contre Arsenal. Mais là, franchement, il a surélevé le niveau. Il a profité justement de cette supériorité numérique et de l'ascendant parisien pour montrer son talent. Et un profil comme ça, il change de direction.
C'est un petit joyau pour
voilà,
moi.
Voilà, c'est ça. C'est, franchement,
c'est un joueur qui a tout. Il a tout. Mais l'effectif,
meilleur passeur de Ligue 1, 6 passes décisives déjà. Et c'est un joueur voilà, qui joue toujours en une, deux touches. C'est très propre. Voilà, je pense son petit défaut, mais c'est intrinsèque, c'est qu'effectivement, il est quand même, et physiquement, c'est un peu léger au milieu parce qu'il est de par sa taille, etc.
C'est la composante de ce milieu de terrain, là, globalement.
Exactement, c'est la façon dont le milieu de terrain était composé, c'est ce qu'il aime. Et c'est aussi en ça que Zaïre-Emery, lui, apporte quelque chose un peu différent. Mais
et il marque pas énormément. Alors, il a mis le premier hier, mais c'est vrai que depuis le début de carrière, bon, c'est 2-3 buts, je crois.
Ouais,
avec
mais en
tout cas, je sais pas forcément ce que l'on a.
Mais si, mais 15 passes décisives, ça ira très bien.
Verratti a été un peu. Il en mettait un ou deux.
C'est le nouveau Verratti, je pense.
Je vous demande pas, juste entre João Neves et Fabián Ruiz sur les gros matchs, qui est-ce que
la réponse est claire. Finalement, c'est Fabián Ruiz de l'équipe d'Espagne, ok, mais le Fabián Ruiz du PSG, il ne peut jamais être titulaire. Il ralentit le jeu, il est un peu dilettante, et puis il croque aussi devant le but. Il aura encore une énorme hier.
Pas le même prix, pas le même âge. Il y en a un où tu peux t'inscrire sur la durée, il y en a un qui s'adapte plus rapidement, et l'autre qui a quand même sa troisième saison au PSG. Bon, il a eu sa chance. Ouais. Neves, il a quand même le droit d'avoir cette crédibilité de passer devant lui et prouver sur le long terme.
Bon, le petit flop du soir, messieurs, il fallait bien en ressortir un. C'est compliqué forcément après une victoire à Marseille 3-0. Mais comme on en attend beaucoup, un petit peu déçu de l'entrée de Désiré Doué. Il y a une grosse occasion pour Désiré Doué. Mais entrée mitigée, c'est un petit peu dans la continuité de ce qu'il montre depuis ses débuts.
Toutes ses entrées sont très moyennes en fait. Il n'arrive pas à faire de différence, il essaye un peu de dribbler, etc., mais ça passe rarement. Après, pour sa défense, c'est qu'on le met un coup dans l'axe, un coup à gauche, un coup à droite, un coup au milieu.
C'est à Reims où je crois qu'il a une demi-heure numéro 9.
Déjà qu'il change quand même de. Voilà, il passe de Rennes au PSG, c'est quand même un nouveau monde pour lui, il joue la Ligue Champion, etc. Il est brinque-ballé d'un poste à l'autre, il a des circonstances atténuantes. Ouais. Après, voilà, on est fin octobre. Il a le droit aussi de faire des bonnes entrées une fois de temps en temps. Quoi.
C'est aussi rassurant de se voir que tous les cracks de 18-19 ans qui arrivent entre guillemets de clubs de Ligue 1, je fais référence à Mbappé, enfin faut pas banaliser ce genre de phénomène. Il est jeune, il était même pas titulaire lors des JO cet été avec Thierry Henry. Donc déjà ça montre qu'on parle d'un joueur qui a tout à prouver et en plus on ne fait pas jouer à son poste, etc. Mais je suis d'accord avec toi, hier je regardais le match, sincèrement, mais que
on
des mauvais
que
choix.
De confiance et un petit déclic parce que la qualité technique elle est là, c'est l'un des plus talentueux de cette génération, mais ça surjoue ça.
Et surtout qu'hier c'était quand même. Tu mènes 3-0, le match il est plié, tu peux te lâcher.
En voyant rentrant, je me suis dit ça sent le premier but.
Mais bon, après ça ronronnait beaucoup autour, donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple de rentrer dans une équipe qui est un peu en roue libre. La deuxième mi-temps hier, moi je me suis quasi endormi, il se passait rien.
En fait, ce qui lui portait défaut, c'est un peu ce qu'on reprochait à Barcola sur son coup de mou la saison dernière, c'est qu'il fait des gestes trop téléphonés. c'est trop calculé. Ça rejoint ce que tu dis, le manque de confiance. Je pense qu'il ne faut pas libérer et il fait beaucoup de mauvais choix. Il n'est pas précis.
Mais c'est vrai qu'il y a l'adaptation, changement de dimension clairement avec le Paris Saint-Germain. Désiré Doué, peut-être un jour dans la liste, on n'en est pas encore là, mais
pas gagné, hein.
Pour le Ballon d'Or qui sera décerné ce soir à Paris. Alors avec d'ailleurs un gros rebondissement a priori prévu sur le vainqueur, puisqu'on parlait de Vinicius Junior, ce sera vraisemblablement Rodri, à confirmer d'ici quelques minutes. Un joueur du PSG parmi les 30 nommés, et on connaît déjà son classement, on vous le donne, c'est Vitinha qui finit 27e de ce Ballon d'Or. Alors le classement en soi 27e est anecdotique, mais le fait d'être dans les 30 après ses débuts au Paris Saint-Germain, il prend date, Vitinha.
Oui, c'est ça, 27e, 18e, 22e, c'est pareil, on s'en fiche. Enfin, ce qui compte, c'est les 7-8 premiers. Ouais. Après qu'il soit dans les 30, c'était une juste récompense que je trouve qu'il a fait vraiment... L'an dernier, c'est pour moi, la saison dernière, c'est le meilleur parisien. Après, il a eu un peu de mal quand même en ce début de saison. Là, il commence un petit peu à revenir.
Oui, après, maintenant, le Ballon d'Or, c'est sur la saison. Donc, en fait, ce qu'il a fait dans la saison, ça compte pas. Oui. On compte l'Euro et la saison dernière.
Exactement.
PSG, oui. Et puis, quand on voit que Rodri va remporter peut-être le Ballon d'Or ce soir, on dit que Vitinha, voilà, c'est le genre de joueur, il y a quelques années, qu'on imaginait incapable, par rapport au vote, de remporter le Ballon d'Or. Bon, on n'en est pas là.
Mais le fait d'être dans les 30, c'est bien.
Ouais. On a tous été fiers de le voir déjà dans l'équipe type de Ligue des Champions la saison dernière et là dans les 30 du Ballon d'Or. En plus, c'est pas non plus un joueur bankable qui. Enfin, on connaît un Ballon d'Or, faut avoir une certaine image, ça compte pour les suffrages et Vitinha ne l'a pas. Et ça montre que sa saison a tellement été impactante que ça a été retenu par les jurés.
Bon, autre Parisien nommé ce soir, je sais que ce débat te tenait à cœur, Alexandre, c'est Gianluigi Donnarumma pour le trophée Yachine qui récompense le meilleur gardien de la saison écoulée. Le gardien italien du PSG fait partie des favoris pour le trophée aux côtés de Mike Maignan, Unai Simon, Emiliano Martinez ou encore Yann Sommer. Quel classement pour Donnarumma mérite-t-il le trophée, Alexandre?
Bon, il ne doit même pas être dans la liste, donc je n'ai même pas donné de classement. Il n'a rien à faire là.
Je crois qu'il y a 15 nommés dans la liste. Il n'est pas parmi les 15 meilleurs gardiens d'Europe aujourd'hui.
Surtout pas, non.
En fait,
pour moi, il n'est pas dans les 15.
En fait,
non, mais objectivement.
Pour moi, il est dans les 15, mais il n'est pas dans les 10. Mais il est dans les 15.
Mais je ne le mets même pas dans les 20, je pense. Enfin, moi, c'est un gardien qui, dans les grands matchs, n'est jamais bon. Il n'est jamais décisif dans les grands matchs de Ligue des Champions du PSG depuis qu'il est là. Je suis désolé. Il fait des erreurs. Il prend tous les buts sur corner, il sort pas bien, il a fait des boulettes. Non, c'est un joueur effectivement en Ligue 1 qui fait des beaux arrêts, qui est spectaculaire sur sa ligne, etc. Mais il est sur les sorties aériennes, il est catastrophique, sur le jeu au pied, il est catastrophique. Et moi je trouve que c'est un... Je trouve qu'on lui laisse une chance. Peu de gardiens ont eu autant de temps et on a pardonné autant de choses. Donnarumma, moi, je trouve, c'est un peu une arnaque.
Il avait
remporté
en 2021 ce trophée Yachine juste après la victoire.
Mais là, oui, parce qu'il gagne l'Euro.
C'est ça, il a régressé, il n'a pas progressé.
Ouais, mais regarde, l'Euro.
Tu me le mets même pas dans l'Euro.
Parce qu'il fait un Euro incroyable, ça c'est vrai, avec l'équipe d'Italie, il gagne l'Euro, donc c'est pour ça qu'il y est.
Mais même à l'Euro 24, il fait un
Milan aussi,
il fait un très bon Euro. Il faut pas l'oublier.
C'est juste que l'Italie rate.
Ouais, mais lui, il fait son taf. Et je suis assez.
Il avait d'ailleurs fait preuve, je trouve, de charisme, de leadership. Ce que l'on ne voit que très rarement au Paris Saint-Germain.
Moi, je trouve vraiment, j'ai été plus surpris de voir son classement au Ballon d'Or 2021, où je trouve que son Euro était un peu surcoté, alors que sa saison au Milan n'était pas non plus. Ouais. Alors qu'en 2024, je suis assez d'accord. Moi, je suis le premier à le critiquer. Barcelone-Dortmund, match retour Dortmund, match aller Barcelone, et même en phase de poule, je me rappelle, le contre Newcastle, sur la frappe d'Almiron. Mmh. Sur les gros matchs, les matchs importants,
en Ligue 1,
il a quand même à Marseille, je me rappelle. Mais bon, je suis d'accord, mais c'est juste pour dire que.
Je pense que l'Euro joue quand même beaucoup.
Ben oui, c'est ça.
Sa présence
Martinez,
dans cette
liste. Si Martinez
c'est
est dans la liste.
La Ligue 1 que tu marques les esprits.
L'Euro, je suis désolé, l'Italie, Alexandre, il fait pas un bon Euro. Ah,
il fait de gros matchs.
Il fait quelques arrêts, mais c'est un gardien de but.
Martinez arrêts,
est il est grand, donc il fait des arrêts, mais après.
Juste pour refermer le chapitre, qui pour le trophée Yachine? Vous n'avez pas mis Emiliano Martinez?
Non.
Ah, lui, c'est surtout sa Copa América pour le coup, lui. Ouais. Donc c'est la même chose.
Bon, verdict ce soir pour le Ballon d'Or et le trophée Yachine. Vitinha, on le rappelle, termine 27e. Petit coup d'œil sur le calendrier à venir du Paris Saint-Germain. PSG Lens samedi prochain, 17h. En Ligue 1, au Parc des Princes, avant un match capital, toujours à domicile dans 10 jours, face à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, Angers-PSG. Ensuite, le 9 novembre, avant une dernière trêve internationale. Avant de passer à l'Omnisport, on voulait dans COP Paris avoir une grosse pensée pour Abdelaziz Barada. Le PSG et l'OM en deuil, après avoir appris le décès de cet ancien titi parisien formé au PSG, passé par l'OM. Abdelaziz nous a quittés subitement et brutalement jeudi dernier, à l'âge de 35 ans. Le PSG lui a rendu hommage avec ce tweet, COP Paris s'y associe et présente toutes ses condoléances à la famille et aux proches d'Abdelaziz Barada. L'Omnisport, c'est maintenant les résultats du week-end de vos clubs franciliens. C'est avec Mathilde Brun.
Pour son retour à la Défense Arena, le Racing 92 a engrangé son quatrième succès de la saison en 8 rencontres. Une victoire poussive 30-23 face à Perpignan, avec notamment le premier essai sous le maillot ciel et blanc de l'ouvreur irlandais Owen Farrell. Nolan Le Garec et Daïmani sont les autres marqueurs d'essai franciliens. De son côté, le Stade français se donne de l'air. Bon dernier du top 14 avant le coup d'envoi, les Parisiens se sont mis en mode rouleau compresseur face à Clermont, avec 5 essais inscrits et un Louis Carbonel retrouvé, auteur de 1 essai et de 11 points au pied. Le Stade français l'emporte avec le bonus offensif 36-6, de quoi lui permettre de sortir de la zone rouge. Fin de série pour le Paris Basket. Après 4 succès de rang en championnat, les joueurs de Thiago Splitter se sont inclinés sur le parquet de Cholet. Longtemps malmenés, les Parisiens ne sont pas loin de revenir au contact, mais leur manque d'adresse sur lancer franc, seulement 69% de réussite, leur porte préjudice. Paris est défait 90-80. Le PSG Handball reçut 8-8 en Star League. Mené d'un but à la mi-temps par Istres, 6e au championnat, Luka Karabatic et ses coéquipiers vont accélérer en seconde période, grâce notamment à leur pivot, Siperzak, meilleur buteur parisien avec 8 buts. Le gardien Palika a aussi grandement participé au succès des siens avec 14 arrêts. Avec ce succès 34-30, le PSG reste seul leader au classement. Au Rolex Paris Masters, Arthur Hinderknecht s'est qualifié pour le deuxième tour. Alors qu'il était mené 1-7-0, le Français a profité de l'abandon de son adversaire Thomas Maratch pour s'offrir une première victoire à Bercy. C'est la dernière fois que le tournoi a lieu ici, puisque l'an prochain, le Rolex Paris Masters aura lieu à Paris La Défense Arena.
Comme Paris, c'est déjà fini. Un immense merci à mes deux chroniqueurs du soir, Alexandre Marois et Raphaël Chader. Merci messieurs, à très
merci,
vite.
Merci.
On va remercier bientôt, Alexis ouais. Goudigian également en régie. Merci à toi, tu as eu du courage parce que la soirée était compliquée hier. Je vous rappelle que l'émission Cop Paris est disponible en replay, en podcast sur l'appli RMC BFM Play, sur le site web de BFM Paris et sur le TikTok de l'émission. Très belle semaine à tous et on se retrouve lundi prochain. Bye bye.